J'ai l'impression que de nos jours, il y a une dégradation dans les services que nous recevons. Ce n'est plus comme autrefois. Et j'aimerais vous donner quelques exemples qui valent ce qu'ils valent. Je me souviens de cette époque où ma mère allait chez le coiffeur et elle revenait avec toute une construction sur sa tête. Elle était très fière de sa nouvelle permanente et il fallait absolument pas toucher à ça. Elle l'avait acquise très chèrement en passant une après-midi entière chez le coiffeur. Et elle revenait à la maison très fière de cette affaire qu'il ne fallait absolument pas toucher. Aujourd'hui, d'après ce que je comprends, les femmes vont chez le coiffeur, elles y passent 1 heure, elles se dépêchent de rentrer à la maison pour défaire tout ce qui a été fait, elles refont à leur manière. Alors je me demande, quel service est-ce qu'on a aujourd'hui? Un autre exemple. Il y a quelques semaines en arrière, ma femme et moi avons été au restaurant pour notre anniversaire de mariage. En introduction, j'ai commandé une salade de tomates. Et après un bon moment d'attente, je vois dans mon assiette une tomate cerise entourée de feuilles d'épinards. Et je me suis dit, mais où est passée ma salade de tomates? Une tomate cerise. Dégradation des services. Un autre exemple peut-être que vous avez entendu, c'est en rapport avec cette compagnie irlandaise qui s'appelle Ryanair. Et le patron Michael O'Leary se fait connaître en inventant toutes sortes de choses pour essayer de faire face à la crise financière. Et il a suggéré qu'il fallait trouver le moyen de faire voyager dans ses avions les passagers, les faire voyager debout, de façon à ce qu'on puisse en mettre davantage, vous comprenez? Pourquoi pas voyager debout? Et puis, il s'est dit, voyons, il va falloir peut-être donner une surtaxe aux obèses qui sont là, de façon à ce qu'on puisse compenser le prix. Et puis, il s'est dit, on va réduire les toilettes. Au lieu d'en avoir 3 dans les avions, on va en avoir plus qu'une. Parce que l'espace des 2 autres toilettes permet d'avoir 10 personnes debout qui voyagent. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Et pour encourager les gens à ne pas avoir besoin des toilettes, on va leur faire payer le papier toilette. Voilà toutes sortes d'idées innovatrices pour faire face à la crise. Dégradation des services. On a l'impression d'être environné d'une dégradation de services dans le monde où nous vivons. Et je me pose évidemment la question, qu'en est-il des services dans l'Église? Alors vous allez dire, ah oui, ah ça c'est bien vrai. Il y a de la dégradation dans le service de l'Église. D'ailleurs, les pasteurs, aujourd'hui, c'est plus comme les pasteurs d'autrefois. Le bon vieux temps où les pasteurs faisaient leur travail. Y a-t-il dégradation dans l'Église, dans les services de l'Église? Je ne pense pas à la qualité du service. Je ne pense pas au nombre d'heures que les uns et les autres donnent en service à l'Église. Je ne pense pas au volume de service qui est donné pour l'Église. Je pense plus spécifiquement aux raisons pour lesquelles nous servons dans l'Église. Y a-t-il une dégradation dans notre motivation pour le service? Une dégradation que peut-être personne ne peut voir, mais dégradation cependant dans l'état d'esprit avec lequel nous servons au sein de l'Église. Je pense à cette parabole que Jésus racontait, qui est rapportée dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. J'aimerais relire cette parabole avec vous, elle est un peu particulière. Évangile selon Luc au chapitre 17, à partir du verset 7. Évangile selon Luc, chapitre 17, au verset 7, il est écrit ceci. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Des serviteurs inutiles. Cette parabole est particulière parce que Jésus va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Vous êtes tous des serviteurs inutile. Alors à quoi sert un serviteur s'il est inutile? En fait, Jésus ici reprend dans cette parabole cette idée un petit peu particulière et contradictoire, selon laquelle il nous considère comme des serviteurs inutiles, mais il nous emploie quand même à cause de sa grâce. Dieu n'est pas inconscient à notre sujet. Dieu sait très bien que nous sommes incapables. S'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, c'est nous, ce n'est pas lui. Et cependant, bien qu'il le sache, bien qu'il soit bien au clair sur notre situation et nos compétences et notre capacité, Dieu choisit de nous utiliser quand même. Il nous met tous sur un pied d'égalité, quelle que soit notre responsabilité. Jésus nous dit, vous êtes tous des serviteurs inutiles. Humainement parlant, nous pourrions imaginer très facilement que, suivant la responsabilité que nous avons, nous sommes plus ou moins inutiles. Si nous avons une responsabilité importante qui nous met en vue, on a l'impression que nous sommes vraiment utiles finalement, par rapport à celui qui a un rôle de second rang, un rôle caché, une tâche que l'on ne voit pas. Et on pourrait penser que celui qui a un rôle important est plus utile que l'autre. Jésus nous dit, vous êtes des serviteurs inutile. Et par cela, il n'est pas en train de nous insulter, il n'est pas en train de porter un jugement sur nous, il est en train simplement de citer des faits. C'est par là que tout commence, ce n'est pas par là que ça termine. Quand Jésus nous dit « vous êtes des serviteurs inutiles », il est en train de nous dire que le service auquel il nous appelle est une grâce entière qui nous est donnée de sa part. Le service est une grâce entière. Ce service auquel il nous appelle fait partie de cette œuvre de grâce, de ce salut par la grâce. Nous n'aimons pas nous faire dire « Oh toi, de toute façon, tu ne sers à rien. » Et si on nous dit ça, nous allons réagir, nous allons nous fâcher, nous dire « Tu vas voir à quoi je sers, je vais te montrer de quoi je suis capable. » Et vous savez, nous sommes terriblement paradoxal parce que si on nous dit « tu ne sers à rien, tu es inutile », alors nous nous rebiffons et nous disons « je vais lui montrer que je suis utile à quelque chose ». Et d'un autre côté, quand on vient vers nous et qu'on nous dit « voilà, est-ce que tu pourrais faire ça ?», souvent on nous dit « je demande donc à quelqu'un qui sait faire ça, mais je ne peux pas. » Alors on peut ou on ne peut pas? On est capable ou on n'est pas? Et Jésus nous dit « vous êtes des serviteurs inutiles », qui est une manière de nous remettre à notre place dans son plan du salut, et à nous rappeler que finalement, tout service que le Seigneur nous propose n'est que pure grâce de sa part. Certains, peut-être, ont pensé qu'ils sont utiles à quelque chose et ont voulu être utiles dans l'Église, pour tout faire, pour changer. Et se sont rendus compte qu'ils n'ont pas pu tout changer, qu'ils n'ont pas pu tout diriger, qu'ils n'ont pas pu tout faire. Ayant décidé qu'ils ne peuvent pas tout faire, alors ils ont décidé qu'ils n'allaient plus rien faire du tout. Et se sont rendus, à leurs yeux, inutiles. Vous êtes des serviteurs inutiles. Cela nous remet directement à notre place. Et finalement, l'Église, c'est une bande de serviteurs inutiles, une bande de gens incapables, une bande de gens incapables que Dieu veut utiliser cependant dans sa grâce. On nous a fait croire parfois que l'on était irremplaçable, qu'il n'y avait que nous qui pouvions faire telle ou telle chose. C'était un petit peu la carotte pour nous faire avancer et pour nous faire faire ce que nous n'étions pas tellement enclins à faire. Mais en fait, si nous sommes des serviteurs inutiles, nous sommes tous remplaçables. Personne n'est irremplaçable. Ainsi, la valeur du service auquel nous sommes invités, la valeur du service qui nous est demandé, ne tient pas à notre capacité de remplir ce service. La valeur de ce service tient à la grâce de Dieu qui, sachant que nous ne sommes pas capables de le faire, nous le demande quand même. Il y a dégradation dans le service. Peut-être pas dans les heures que nous donnons, dans la qualité du service que nous offrons. Il n'y a peut-être aucune dégradation visible dans le service, mais n'y a-t-il pas quelque part dans notre esprit une dégradation de la motivation et de l'état d'esprit dans lequel nous le faisons? Nous pensons à tous ces géants de la Bible, à ces hommes et ces femmes de foi. Nous pensons à tout ce qu'ils ont accompli. Mais la Bible est pourtant très clairvoyante, elle nous révèle que parfois le service de ces géants de la foi était aussi teinté d'une certaine dégradation. J'aimerais regarder avec vous quelques exemples, d'exemples de ces hommes, de ces femmes, qui étaient au service, mais qui n'y étaient pas peut-être comme Dieu l'aurait voulu. De la même manière d'ailleurs que nous sommes au service, mais peut-être pas, peut-être plus, comme Dieu voudrait que nous y soyons. Je vous propose de regarder un exemple dans le livre des Actes au chapitre 10. Dans le livre des Actes au chapitre 10, il nous est raconté l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille. C'est un Romain, c'est un centenier romain, mais il est attaché au culte de Dieu. C'est un étranger. Et le chapitre 10 nous raconte à quel point Dieu s'est donné de la peine pour permettre à cet homme de rencontrer un de ses serviteurs. Vous connaissez l'histoire. Dieu va envoyer une vision, va donner une vision à Corneille, dans laquelle il va lui dire, voilà, va chercher un homme qui s'appelle Pierre, voilà à quel endroit tu vas le trouver, il te parlera de moi. Et puis Dieu va donner une vision à Pierre, cette fameuse vision du drap dans lequel se trouvent des viandes impures. Et puis, le Saint-Esprit va ensuite parler à Pierre pour lui dire, « Les hommes qui sont à ta porte, c'est moi qui les ai envoyés, suis-les. » Et puis finalement, Pierre va suivre ces hommes et se retrouver dans la maison de Corneille où il va trouver là une assemblée de gens qui sont prêts à l'écouter parler. Et dans le livre des Actes, au chapitre 10, au verset 28, il nous est rapporté cette entrée de Pierre dans la maison de Corneille. Actes, chapitre 10, verset 28. C'est Pierre qui parle. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Écoutez, c'est difficile de trouver une pire introduction à l'évangélisation. Pierre arrive et dit, écoutez, vous savez que normalement je n'ai pas le droit de mettre les pieds chez vous. Mais vous m'avez envoyé chercher, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on vous a appris à vous introduire pour donner une étude biblique à quelqu'un qui veut entendre la parole de Dieu? Pire introduction, vous ne trouverez pas. Pierre, le grand Pierre. Voilà la manière dont il fait l'évangélisation. À reculons. Dégradation du service. Un autre exemple un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 17, où nous trouvons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va à Thessalonique, et là il rencontre des difficultés. Il va donc partir de là et aller dans une ville voisine, à Bérée, qui, en fait, va lui offrir un meilleur accueil. Mais les gens de Thessalonique vont aller à Bérée, lui créer des difficultés, de sorte qu'il va encore partir plus loin. Et il nous est dit au verset 15, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Paul va à Athènes, le siège de la religion et de la philosophie païenne de ce temps. Et Paul se dit, on va donner l'évangile dans les villes et les villages, mais cette fois-ci on va frapper la bête à la tête. On va aller toucher le paganisme à la tête. dans le centre même de la culture et du paganisme. Paul va à Athènes et il se promène dans les rues, vous connaissez l'histoire, il est énervé de voir des autels et des statues partout, partout, pour une multitude de dieux qui n'en sont pas. Il parle avec les gens et finalement on se rend compte qu'il y a à Athènes un homme qui apporte une philosophie nouvelle, des idées nouvelles qu'on n'a encore jamais entendues, et on lui dit donc, viens donc expliquer tes idées à l'aréopage, une espèce de tribunal de philosophes. Et Paul est content de pouvoir aller présenter ce qu'il a à dire devant tous les cerveaux de Athènes. Et nous avons un extrait de ce discours que Paul va présenter à l'élite des Athéniens, dans Actes au chapitre 17. Un discours très bien composé, une belle introduction. Paul utilise là toute sa sagesse, toute sa connaissance, toute sa culture pour aborder les Athéniens. Il va les tenir en éveil pendant un bon moment, parce que c'est un bon orateur. Jusqu'au moment où il va leur parler de la résurrection, et là, ils vont être tous à rigoler. Écoutez, la résurrection, un mort qui vit de nouveau, ça, ils n'avaient jamais encore entendu parler de ça. Ils n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille, un mort qui vit de nouveau. Et c'était tellement drôle et ridicule qu'ils lui ont dit, écoute, tais-toi, on t'entendra là-dessus une autre fois, tu peux rentrer chez toi, ça suffit maintenant. Pas d'église à Athènes. Le texte nous dit un peu plus loin, à la fin du chapitre, verset 33, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Mais vous n'avez pas une église à Athènes. Paul va quitter Athènes et il va aller à Corinthe. Et à Corinthe, Dieu va lui parler. Et au chapitre 18, il est dit au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu n'avait pas demandé à Paul d'aller à Athènes. C'est Paul qui s'était dit, moi je vais aller à Athènes, et vous allez voir, je vais faire du remue-ménage à Athènes avec l'Évangile. Mais Dieu envoie Paul à Corinthe et lui dit, c'est à Corinthe que j'ai un peuple nombreux. Et l'apôtre Paul, arrivant à Corinthe, a appris une leçon qu'il partage d'ailleurs avec les Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, il va exprimer dans quel sentiment il est venu de Athènes à Corinthe. À Corinthe, il y aura une église importante, une église d'ailleurs tumultueuse, à laquelle Paul devra écrire 4 lettres, dont nous n'avons que 2 dans le Nouveau Testament. Mais Paul écrit lui-même et dit au début du chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul arrive à Corinthe, conscient qu'il a offert à Athènes un bon service, un service de grande qualité. Mais il y avait une grande dégradation dans son service par rapport à l'état d'esprit dans lequel il l'a fait. Il y est allé pensant par lui-même, frapper le paganisme à la tête, grâce à sa culture, grâce à son érudition, grâce à son élocution. Mais il arrive à Corinthe en comprenant que la seule puissance qui convaincra quiconque de recevoir Jésus, c'est de prêcher Jésus et Jésus-Christ crucifié et d'y aller par la puissance que le Saint-Esprit seul peut lui donner. Dégradation dans le service, sans aucun doute. Mais c'est Paul, le grand Paul. J'aimerais prendre un autre exemple dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois au chapitre 19, où il nous est rapporté l'histoire de Élie. Heureusement, l'apôtre Jacques nous rappelle, et ce n'est pas superflu, que Élie était un homme de la même nature que nous. Parce que nous pensons à ce que Élie a fait, et nous avons vraiment l'impression d'avoir en face de nous un surhomme. Cependant, le chapitre 18 et 19 nous raconte ce que Élie a fait. Vous vous souvenez que Élie, appelé par Dieu, va interpeller le peuple et le roi, et qu'il va se retrouver tout seul devant le peuple convoqué au Mont Carmel. Il y a là non seulement le roi, non seulement le peuple, mais il y a aussi 850 prophètes païens. C'est du monde en face de lui. Vous vous souvenez, ils vont chacun faire leur sacrifice. Élie va prier, le feu va tomber du ciel. Et le peuple va comprendre à nouveau qui est Dieu vraiment. Et Élie, ce jour-là, va faire exécuter les 850 prophètes païens qui sont là. C'est beaucoup de monde, ça, en une journée. Et puis, vous vous souvenez que, à la fin de cette journée-là, Jézabel lui envoie un message qui lui dit « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et Élie s'enfuit. Élie se sauve. Parce que cette femme, Jézabel, le menace de mort, comme lui a exécuté tous les prophètes qu'elle avait fait venir d'ailleurs en Israël. Il se sauve au désert. Et puis Dieu va lui parler et va lui poser une question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie va répondre. C'est au chapitre 19, au verset 10, il dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Je suis resté moi seul. Cette réponse-là, en réalité, Élie va la donner deux fois, on la retrouve au verset 14. « Seigneur, je suis resté tout seul. Il n'y a que moi ici qui fais quelque chose. Mais tous m'ont abandonné. Et peut-être que tu m'as abandonné aussi. » Élie a offert un bon service sur le Mont Carmel. Personne n'a vu de dégradation dans le service de ce prophète fidèle à Dieu. Cependant, il attendait quand même un peu de reconnaissance, un peu d'honneur qui lui soit donné pour le service précisément qu'il avait rendu. Il s'attendait à ce qu'il y ait une certaine valorisation de ce qu'il était, de ce qu'il a fait. Et puis, elle n'est pas venue. Élie attendait de la reconnaissance. Ce n'est pas un service vraiment gratuit qu'il avait donné. Il attendait quelque chose en retour. Personne n'a rien vu. Mais Dieu l'a appelé pour lui faire prendre conscience qu'il y avait une dégradation dans l'état d'esprit avec lequel il offrait son service à Dieu. Dieu a voulu lui parler. Il lui a montré, vous vous en souvenez, un vent violent, et puis une tempête, et puis un tremblement de terre, et puis un feu. Toutes des choses spectaculaires dans lesquelles Dieu n'était pas. Il est venu lui parler dans le creux de l'oreille pour lui dire, dans le silence, « Élie, tu es un serviteur inutile. Le service que je t'ai donné, il est pure grâce, du début jusqu'à la fin. Serviteur inutile. » Et Moïse dit, « Mais Seigneur, je suis moi seul. » Et Dieu lui dit, « Mais non, Élie, tu n'es pas seul. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais tu ne les connais pas, c'est tout. » Tu n'es pas seul. Tu es un serviteur inutile. Et c'est Élie, le grand Élie. J'aimerais prendre un autre exemple dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc. Un événement que vous connaissez bien. L'évangéliste Luc rapporte cette visite de Jésus chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Évangile selon Luc au chapitre 10. Vous vous en souvenez, Jésus vient chez ses amis et il leur parle. Et pendant qu'il parle, Marie est là, assise à ses pieds, buvant ses paroles. Et Marthe, elle est occupée à la cuisine, elle va, elle vient, elle veut préparer un super repas pour Jésus qui est là venu en visite. Jusqu'au moment où Marthe en a assez de voir Marie qui ne fait rien, et elle s'adresse à Jésus et lui pose cette question, « Cela ne te fait-il rien que je sois seule ?» pour servir. Il n'y a que moi qui travaille ici. Si je n'étais pas là, qu'est-ce qui arriverait? Et Jésus lui dit, c'est bien, Marthe, mais il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Ce que fait Marie, c'est important aussi, après tout. Elle écoute des paroles importantes. Elle bénéficie de ma présence. Je ne serai pas tous les jours avec vous. Moi seul, je suis seul à faire quelque chose ici. Il n'y a que moi qui peux le faire. Serviteur inutile. Nous pourrions penser que nous donnons quelque chose à Dieu quand nous accomplissons le service qu'il nous demande. En fait, quand on y réfléchit, quand on pense à la manière dont Dieu nous présente ce service, nous ne donnons rien à Dieu. En fait, c'est lui qui nous donne la grâce de le servir. Nous ne donnons rien à Dieu. Et en fait, ce qu'il nous demande de faire souvent, nous gâchons ce travail, comme d'ailleurs Pierre, Jacques, Paul, Élie, Marthe et les autres gâchent souvent le travail que Dieu leur donne. En réalité, il nous dit d'un côté que nous sommes des serviteurs inutiles, mais il persiste dans son amour à nous employer quand même. Il sait que nous sommes inutiles, mais ça ne fait rien. Il nous emploie quand même. Et je ne dirai pas le contraire de ce que Jésus a dit, mais lorsque nous acceptons d'être des serviteurs inutiles, à ce moment-là, Dieu nous considère comme des ouvriers indispensables pour lui, parce qu'il ne veut pas avoir recours à d'autres ouvriers que nous. Nous sommes toujours inutiles, mais indispensables parce que dans sa grâce, il veut nous employer quand même. Vous vous souvenez de cette histoire de l'église qui a été en Allemagne bombardée pendant la guerre, qui a été détruite en partie. Et à la fin de la guerre, on a voulu la restaurer. Et parmi les dégâts qui ont été faits par les bombardements, on comptait une statue de Jésus qui avait été abîmée. En particulier, les deux avant-bras, les deux mains du Christ avaient été cassées. Les gens chargés de la restauration ont demandé à des architectes, à des artistes, de faire des projets pour restaurer la statue de Jésus. Ils sont venus avec un grand nombre de propositions. Ils ont retenu la proposition de l'un d'eux. Elle était simple. Ne rien faire, mais mettre une plaque qui en dessous disait « Il n'a d'autres mains que les nôtres ». Et c'est vrai, il a choisi de n'avoir d'autres mains que les nôtres. Des ouvriers inutiles, mais des ouvriers indispensables. Des ouvriers inutiles, mais pas irremplaçables. Seuls, est-ce que nous sommes seuls? Le seul, en fait, à être seul, c'est Jésus lui-même. Et vous vous souvenez de ce que Jésus disait dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, au verset 46, Jésus sur la croix s'écriait « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le seul qui ait jamais été seul, c'était Jésus. Seul parce qu'au moment où il a été arrêté, tous ses amis les plus proches qui lui avaient juré fidélité, ses disciples, se sont tous envolés. Seul parce qu'il était le seul dans cette situation, dans l'humanité. Seul parce qu'il était seul à pouvoir monter sur la croix pour nous. Seul parce qu'il était le seul à pouvoir porter nos péchés. Seul dans cette situation-là. Le seul qui ait jamais été seul, c'était vraiment Jésus. Et pourtant, c'était lui le seul qui nous ait véritablement montré le vrai service. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre